France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20. Il a régné sur 450 000 salariés et deux multinationales. Carlos Ghosn risque aujourd'hui la prison. L'ancien patron de Renault-Nissan a vu sa vue basculer il y a un an. Arrêté au Japon, placé en détention provisoire pendant 130 jours, il est aujourd'hui assigné à résidence à Tokyo. Il prépare son procès. Bonjour Yann Rousseau.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Tokyo, correspondant des Échos au Japon, également collaborateur régulier de France Inter. Vous préparez d'ailleurs un livre sur cette affaire. Alors ces avocats, les avocats de Carlos Ghosn demandent la fin de la procédure. Ils accusent le parquet d'avoir commis des actes illégaux, en collusion d'ailleurs avec des cadres de Nissan. Est-ce que leur requête a une chance d'aboutir ?
Non, aucune chance. C'est une manœuvre un petit peu désespérée, mais c'est dans la ligne de ce qui a été fait, de la stratégie de défense de Carlos Ghosn depuis le début. Pour l'instant, la stratégie sur la première année, c'est le procès du procès, c'est-à-dire qu'il faut expliquer qu'il n'aurait jamais dû être arrêté, qu'il n'aurait jamais dû être mis en examen à 4 reprises, et que tout ça est le fruit d'un grand complot politico-industriel entre effectivement 3-4 cadres chez Nissan qui voulaient se débarrasser de lui avant qu'il n'organise une intégration plus poussée entre Renault et Nissan, et des gens du METI. Le METI, c'est le ministère de l'Industrie, qui ne voulait pas non plus une mainmise des Français sur Nissan. Donc lui, il est dans cette thèse du complot et il dit que le procureur a mis la main dans ce complot, a participé à des manœuvres illégales pour construire des preuves, et donc il demande l'annulation de toutes les procédures, mais ça ne va pas aboutir. Il y aura bien un procès l'an prochain.
Est-ce qu'il y a une possibilité aussi qu'il soit jugé en France ? C'est ce que réclament plusieurs parlementaires français de droite notamment.
Strictement aucune. C'est aussi toujours un montage de son équipe de défense. Ça n'existe absolument pas, ces transferts de gens qui sont encore mis en examen et qui n'ont pas été jugés. Ça n'est dans aucun des deux sens. Donc il n'y a aucune possibilité qu'il rentre en France pour être jugé en France.
Donc il sera jugé au Japon. Est-ce qu'on a déjà la date du procès ?
Alors, on n'a pas la date. La défense propose, espère que ça aura lieu le plus tôt possible. On a eu il y a quelques jours une proposition de date au mois de à fin mars ou avril 2020. Mais j'ai vu ces avocats la semaine dernière qui ont peur que ça prenne plus de temps. En fait, il n'y a pas de délai officiel. C'est un accord entre le parquet, l'accusation et la défense, les avocats et les trois magistrats qui sont à toutes les audiences préliminaires où les deux parties s'affrontent. Donc, on propose des dates et il faut qu'elles soient acceptées par les deux. Pour l'instant, la défense veut quelque chose de très tôt, mais le procureur prend son temps. On est plutôt, à mon avis, en ce moment, sur quelque chose tard dans l'année 2020.
Et les procès, ça dure longtemps ou un tel procès va durer longtemps au Japon ?
Là encore, il n'y a pas de délai officiel, mais il est possible que la première instance dure au moins 18 mois,
ah oui.
Un an et demi. Un an, oui, c'est ça. Et ensuite, vous allez avoir probablement une procédure en appel. L'appel ne démarrerait que 6 mois à 1 an après le premier verdict, et on repartirait, on remettrait une pièce dans la machine pour un an de plus. Donc, si tout se passe mal, si tout s'enchaîne, Carlos Ghosn peut être encore coincé au Japon pour au moins 3-4 ans.
Que risque-t-il exactement ? La prison ? Plusieurs années de prison ?
Sur le papier, il risque, en fonction donc des 4 mises en examen, il risque au maximum 15 ans de prison de ferme et une amende de 150 millions de yens, ce qui fait 1,2 million d'euros. Donc il n'aura probablement pas ça, on verra s'il est déclaré coupable, mais c'est au maximum. Donc il est probable, dans les cas de crimes financiers qu'on a vu ces dernières années au Japon, qui ressemblent un petit peu au cas de Ghosn, on est plutôt sur des peines de prison ferme de 2 ans ou 3 ans et sur une grosse amende.
Concrètement, que lui est-il reproché ? Vous nous dites qu'il y a 4 chefs d'accusation ?
Exactement, il y a 4 mises en examen. Les 2 premières portent sur une violation d'une loi financière. En gros, le parquet reproche à Carlos Ghosn d'avoir omis délibérément d'inscrire dans un rapport boursier que Nissan remet chaque année aux autorités boursières le montant exact de sa rémunération. C'est-à-dire qu'il écrivait dans ce rapport le montant de sa paye officielle, mais il n'inscrivait pas, d'après le parquet, une paye supplémentaire équivalente au salaire officiel qu'il avait prévu de toucher à son départ de l'entreprise. On parle au total de 70 millions d'euros qu'il aurait espéré toucher à la fin de sa carrière chez Nissan. Lui, Carlos Ghosn, dément totalement ce volet. Le second volet, donc la mise en examen 3 et 4, ce sont des abus de confiance aggravés. En gros, le parquet dit que Carlos Ghosn a détourné des fonds de Nissan à des fins privées. Le premier fait, ça remonte à la crise financière de 2008-2009. Il avait eu un coup coup de pouce financier d'un ami milliardaire saoudien parce qu'il avait des problèmes sur ses finances personnelles suite à des, il avait signé des contrats très, très risqués. Et Nissan a ensuite versé des fonds à la société de ce financier, de ce milliardaire saoudien. Donc le parquet dit, bon, il y a, en échange du coup de pouce, vous avez fait payer à Nissan des fonds à cette société. Et le dernier fait, donc la dernière mise en examen, qui est aussi un abus de confiance aggravé, c'est la, ce qu'on appelle ici la filière d'Oman. En gros, il aurait demandé à Nissan de verser des primes de performance à un concessionnaire situé à Oman. Et ce concessionnaire aurait, d'après le parquet, ensuite transféré des fonds à une petite structure au Liban qui s'appelle GFI, qui est liée à Carlos Ghosn, même s'il n'y est pas, mais elle a été montée par son ancien avocat. Et cette structure a ensuite investi des millions de dollars dans des projets de Carlos Ghosn, notamment un fonds high-tech qu'il avait avec son fils aux États-Unis et le yacht de luxe qu'utilisait sa famille et qui est enregistré aux îles Vierges britanniques. Donc le parquet dit, il y a un lien, on est sûr, entre ce que vous avez fait venir à Oman et ce que ce directeur de société à Oman vous a transféré ensuite.
Yann Rousseau, en attendant ce procès, quelle est la vie de Carlos Ghosn aujourd'hui? Ses moindres faits et gestes sont surveillés?
Alors, il est effectivement surveillé par plusieurs agences. Nissan le fait suivre, hein, on en est à peu près sûr. Moi-même, je me suis retrouvé dans des photos de détectives privés. Ils le font suivre. Le parquet aussi, de temps en temps, le met sous surveillance pour savoir s'il ne brise pas les conditions de sa libération sous caution, parce que juridiquement, il est en libération sous caution. Il a une vie très réglée qui se passe entre sa maison, qui est, il a déménagé dans une maison de trois étages qui est près de l'ambassade de France, et les bureaux de ses avocats, qui sont juste à côté du palais impérial et du bureau des échos, de fait. Et il vient ici dans ses bureaux d'avocats vers 9h le matin avec une voiture avec chauffeur, et il ira jusqu'à 17h parce que c'est le seul endroit où il a le droit de se connecter à Internet, il a le droit d'utiliser un ordinateur en dehors de cette période de deux semaines, de 9h à 17h chez son avocat. Il n'a pas le droit d'être connecté, il n'a pas de smartphone, il a un téléphone, vous savez, les vieux téléphones à clapet, et donc il n'a le droit qu'à la voix. Et sinon, le reste du temps, il fait un peu de gym dans un hôtel de luxe pas très loin de chez lui. Et il voit des amis, quelques amis, notamment des amis libanais.
Mais pas sa femme.
Patron. Et pas sa femme. La libération sous caution exclut tout contact, tout mail, toute conversation téléphonique et tout rapport, rendez-vous avec son épouse Carole. Et ça fait 7 mois et c'est ce qui le fait le souffrir le plus.
Merci Yann Rousseau, correspondant des Échos au Japon et collaborateur régulier de France Inter. Vous étiez l'invité du 5-7.